Les deux orphelines, première partie, chapitre 18. Tout le monde s'était retourné en même temps pour voir qui était l'audacieux qui se permettait de parler si haut chez le marquis de Presles. Mais en reconnaissant le chevalier de Vaudreuil, il y eut une véritable explosion de vivats et d'applaudissements dont l'amphitryon avait lui-même donné le signal. « Arrivez donc bien vite, mon cher !» fit de Presles en tendant la main à son ami Roger. « Nous commencions à dire du mal de vous. »« Eh bien, mesdames et messieurs, » fit en souriant le chevalier, « allez toujours, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. » Aussi, répondit le marquis de Presles, c'est la faute de votre Picard. Que diable nous disait-il que vous ne viendriez pas? C'est qu'en effet, je croyais ne pas venir. Florette s'était rapprochée du chevalier et lui lançait un regard qui voulait dire « Et moi, Roger, je savais bien que vous viendriez. » Et tout en couvant son petit chevalier des yeux, Florette dit tout haut « Mais tout cela ne nous apprend pas d'où vous sortez, coureur. » La jolie Rosière donna en même temps ses mains à baiser à son interlocuteur. Roger de Vaudreuil appuya ses lèvres sur chacune de ses jolies mains. Et cette formalité de politesse accomplie, « D'où je viens ? » répondit-il. « De la salle des menus plaisirs. Vous n'ignorez pas, messieurs, que depuis quelque temps, il n'était question dans tout Paris que d'une nouvelle comédie de Beaumarchais. Oui, la folle journée, je crois, une méchante pièce, une espèce de pamphlet. » Que le roi s'est fait lire à Trianon qu'il avait trouvé fort dangereuse, et que par son ordre la police avait défendu. Eh bien, messieurs, la masse du public ayant pris fait et cause pour l'auteur, il a fallu céder. La grande bataille a été livrée ce soir, et pamphlet ou non, la pièce a été portée aux nues. Un enthousiasme, un triomphe, c'était superbe. C'est abominable, s'écria le marquis, et tout le monde fit chorus naturellement. Où allons-nous, grand Dieu? Sa Majesté forcée de céder, et à l'opinion publique encore. Le chevalier de Vaudreuil avait pris pendant ce temps une attitude sérieuse qui contrastait avec son air enjoué du commencement. « Oui, mon cher, » dit-il en s'adressant au marquis, « Sa Majesté a cédé. »« Eh bien, s'il en est ainsi, » s'écria de Presles, « c'est que la royauté baisse. »« C'est que la nation monte, » riposta Roger. La phrase avait été prononcée d'un ton si calme, mais si énergique cependant, que tous les regards se dirigèrent vers ce jeune homme qui parlait avec une si grande autorité. Ni d'Estrée ni de Mailly ne songeaient plus à persifler comme ils en avaient l'habitude. Quant aux dames, elles n'avaient pu se défendre d'un mouvement qui indiquait surtout la surprise, mais aussi un peu la frayeur. Florette surtout avait tressailli en regardant le chevalier. Elle ne demandait qu'à être rassurée par Roger, la jolie courtisane, mais ce fut le marquis de Presles qui répondit. « S'il en est ainsi, mon cher chevalier, il ne restera plus, dans peu, qu'à supprimer nos titres et nos privilèges. Soyez certain, marquis, qu'on les supprimera. » Ces mots du chevalier amenèrent un sourire sur les lèvres de Picard. Roger toisa son valet du regard. « Ça fait rire, monsieur Picard ? » dit-il sévèrement. Le laquais, surpris en faute, baissa la tête en bredouillant. « Excusez-moi, monsieur le chevalier, mais si j'ai souri, si j'ai commis cette imprudence... » « Impertinence !» fit le chevalier. « C'est, » continua le valet de chambre, « que cela m'avait paru aussi drôle que si l'on disait qu'un jour ces bons Parisiens démoliront la Bastille. « Qui sait ?» s'exclama Roger. Pour le coup, Picard ne se contint plus. S'animant comme s'il eût causé avec ses pareils, il se mit à crier. « Eh bien, qu'il s'y frotte ! Ce jour-là, je descendrai, et nous verrons. « Tu descendras dans la rue, toi !» ricana le chevalier. Picard eut un jeu de physionomie des plus comiques. « Plus bas que ça, monsieur » balbutia-t-il, et baissant le ton, il ajouta en aparté. « Je descendrai dans la cave !» L'incident provoqué par Picard avait pris fin. Sur un signe de son maître, le laquais s'était retiré en adressant force salutation à toute l'assistance. Lorsqu'il fut parti, Roger s'avança vers la table et prenant un verre. « Ayez pitié de moi, mes charmantes, je meurs de soif !» fit-il en s'adressant au groupe des dames qui ne le quittaient plus des yeux depuis qu'il avait parlé avec une éloquence entraînante. Mais Florette n'aurait pas laissé à d'autres le soin de lui verser à boire. Julie s'empressa de lui donner un fauteuil. Et bientôt, il se vit entouré par toutes ces jeunes beautés, enchantées de le revoir, et qui faisaient assaut de gentillesse et d'agacerie. Point de bonne fête sans vous, cher chevalier, lui disait-elle. Il est si galant, si gai, si aimable. Le chevalier ne savait plus à qui répondre. Et comment ne pas l'être avec vous, mes belles houris? S'exclama-t-il en envoyant des baisers au groupe des jolies femmes qui l'entouraient. Il nous les prendra toutes, disait de Mailly. En vérité, mon cher, fit le marquis en se rapprochant de Roger, vous êtes pour nous une énigme vivante. Tantôt vous agissez en parfait gentilhomme, et tantôt... Je tourne au plébéien, comme vous disiez tout à l'heure. C'est vrai, je l'avoue, c'est parfaitement vrai. Que diantre, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, passer alternativement d'un camp dans un autre, il faut choisir. C'est ce que je me dis tous les jours, mon cher de Presles. Mais une foule d'idées contraires se croise dans ma tête, et je leur donne raison à toutes les unes après les autres. Enfin, avec ce système-là, où allez-vous? Que voulez-vous? Ce que je veux, profiter du bon temps qui nous reste et me préparer à l'avenir qui nous menace. Je m'amuse pendant que je puis le faire encore, et je travaille pour le jour où je ne pourrai plus m'amuser. Avez-vous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre? Écoutez ces rumeurs sourdes. Regardez ce peuple qui s'éveille. Voyez ces fronts courbés pendant des siècles qui se relèvent audacieux et fiers. Ces bruits étranges, ces masses qui s'agitent, c'est le flot qui grandit et s'avance, fatal, irrésistible. Eh bien, s'il doit emporter nos terres, nos châteaux et le reste, je tâche d'en manger d'avance le plus possible et d'être en état plus tard de m'en passer pour vivre. Florette s'était pendue au bras de Roger. « Tu as peut-être raison, mon petit chevalier. Il vaut mieux manger d'avance tout ce que nous pourrons. » Les vins de Chypre et de Tokay rendaient la rosière singulièrement tendre. « Tu oublies ton rôle, ma belle !» lui cria Julie, qui, elle aussi, éprouvait le besoin, le champagne aidant, de s'appuyer tantôt sur des Strées, tantôt sur de Mailly. Roger se mit à rire. Et tendant son verre à Florette, « Croyez-moi, mes chers amis » continua-t-il. « Buvons, chantons, grisons-nous, ce sera toujours autant de prix. » Ce fut comme un mot d'ordre. Tous ceux qui avaient écouté le chevalier parler de ce qui pouvait arriver avaient hâte de faire se dissiper la mauvaise impression qu'ils venaient de ressentir. « Oui » cria-t-on. « Il faut nous griser, aimer et chanter !» Roger s'était levé, et le verre en main, il fit signe qu'il allait donner l'exemple. Aussitôt, toutes les dames l'entourèrent pour répéter en chœur le refrain. Seul le marquis de Presles ne se mêla pas aux enthousiastes qui continuaient à faire une ovation au chevalier de Vaudrey. Il paraissait inquiet, le marquis, et déjà, à plusieurs reprises, il avait, sans qu'on s'en aperçût, consulté sa montre. Puis, sous le coup de l'impatience qui l'agitait, il s'était dirigé précipitamment du côté de l'entrée. Mais depuis longtemps, les invités, les dames surtout, ne pensaient plus à l'aventure du coche de Normandie. L'arrivée du chevalier de Vaudrey avait été une agréable diversion pour toute cette jeunesse surexcitée par les libations et qui ne demandait qu'à s'enivrer de plus en plus. Or, Roger avait été le bout en train depuis son entrée. C'est lui qui conduisait maintenant l'orgie. Et tout le monde le pressait de chanter. Le chevalier, le verre en main, entonna une chanson à la mode dans les petits soupers. Tant que je verrai couler dans nos verres ce nectar si doux, je dirai « Faisons comme ont fait nos pères ». « Amis, grisons-nous, et comme le sage, rions de l'orage. Tant qu'il n'est pas là, qui vivra, verra. » Un tonnerre d'applaudissements éclata à la fin du couplet. Et pendant que les assistants en délire reprenaient le refrain en chœur, les servantes mauresques circulaient, offrant des vins exotiques et du champagne frappé. Les verres s'entrechoquaient, les têtes échauffées se rapprochaient. Les yeux brillants, les lèvres humectées de champagne, les courtisanes, affolées de plaisir, prenaient de l'avance sur l'heure convenue pour le sauve-qui-peut. Florette et Julie s'étaient placées de chaque côté du chanteur et criaient « Le second couplet !» et tous de répéter en chœur « Le second couplet ! Le second couplet !»« Eh bien, à toi de le chanter, Florette !» s'écria Roger en prenant la jeune femme par la taille. « Oui, oui, à Florette !»« Soit, mes amis !» fit la jolie danseuse. « Tant pis pour vous si j'ai la langue un peu lourde et la voix un peu criarde. C'est le toquet qui sera coupable !» Florette, enlevée à bout de bras par deux maillets et d'estrées, apparut comme si elle eût été sur un piédestal. Elle dominait Roger qui, placé à ses pieds, se disposait à accompagner la chanson en faisant cliqueter son verre contre celui de Julie. Alors Florette commença. « Tant que vos écus paieront nos dentelles et nos diamants, pourquoi serions-nous prudes et rebelles dans notre printemps? Aimon, c'est plus sage, et rions de l'âge. Tant qu'il n'est pas là, qui vivra, verra. Rien ne saurait dépeindre l'enthousiasme délirant de toute cette assistance en ébriété. On se passait Florette de main en main, tandis que De Mayette, titubant, criait. « Ne touchez pas à la rosière, ce n'est pas encore l'heure !» Dans ce tohu-bohu de voix saluant la coryphée, dans cette clameur immense que provoquait l'ivresse, la voix de Roger domina pour dire « Rions, buvons, chantons, après nous la fin du monde !» La fête du pavillon du Bel Air avait, comme on le voit, rapidement dégénéré en orgie. L'orgie menaçait maintenant de tourner à la folie. L'orchestre avait de nouveau attaqué un quadrille. Mais on ne dansait plus, on se poussait, on se bousculait. On sautait au hasard, s'entraînant dans une ronde échevelée, se tenant par les mains, par la taille, se lâchant pour se rattraper au passage. Et dans cet enchevêtrement de corps affolés, les imaginations en délire improvisaient les propos les plus audacieux, les interpellations les plus étonnantes, les apostrophes les plus licencieuses. Au son de cette musique qui recommençait toujours, les jambes se brisaient, les poitrines haletaient, les cerveaux s'exaltaient, les voix s'épuisaient. Il arriva un moment où, dans ce fantastique tourbillonnement, on n'entendit plus que le froissement des soies et le cliquetis des épées et des bijoux s'entrechoquant au passage. D'instant en instant, un des danseurs allait tomber, épuisé sur un fauteuil, d'autres désertaient pour aller aux tables où les rafraîchissements se renouvelaient sans cesse. Quelques dames, à bout de respiration, se laissaient aller dans les bras de leurs cavaliers. D'Estrée et De Mailly, aux trois quarts ivres, avaient entamé une partie d'échecs des plus fantaisistes. Folles, mais plus résistantes que les autres, Florette et Julie étaient retournées au balançoir pour recommencer la lutte interrompue par l'arrivée de l'amphitryon au commencement de la fête. Roger de Vaudrey, resté seul pendant ce temps, s'était assis un peu à l'écart. Un sourire sarcastique plissait sa lèvre au spectacle de tous ces écervelés qu'il avait lancés ainsi dans les folies sans nom, en leur faisant entrevoir la fin des orgies comme probable et les revendications populaires comme possibles. Quant à De Presles, c'est en vain qu'il avait voulu se mêler aux amusements effrénés auxquels se livraient ses invités. Il était évident que ce débauché commençait à trouver que la fleur tardait à venir et qu'il se pouvait bien faire que la combinaison de l'habile drôle eût raté par un hasard quelconque. Il ne tenait plus en place, lui qui, naguère encore, se croyait si certain du succès. Il se prenait à penser que ses invités allaient l'accuser de fanfaronnade et que ces dames, pour se venger de la rivalité qu'on avait eu l'intention de leur opposer, ne manqueraient pas de l'accabler d'épigrammes et ne lui ménageraient ni les quolibets ironiques ni les critiques sanglantes. Il sentait qu'il fallait brusquer le dénouement s'il voulait triompher, avant que l'ivresse eût complètement envahi les cerveaux et plongé tous ces fantoches de l'orgie dans une ébriété qui ne leur laisserait plus conscience de ce qui allait se passer à l'arrivée de la jeune voyageuse du coche d'Evreux. Aussi le marquis de Presles se démenait-il comme un fauve, allant d'un bout du jardin à l'autre pour voir si la fleur n'apparaîtrait pas. Furieux de cette longue et vaine attente, l'irascible marquis déchiquetait à coups d'ongles les dentelles de ses manchettes et de son jabot. Une sourde colère grondait dans sa tête alourdie par les fumées du champagne. Et il ruminait contre le valet qui l'avait trompé de terribles menaces. Tout à coup, au moment où pour la 20e fois il se dirigeait vers le fond du jardin, la fleur parut subitement devant lui, sortant d'un des bosquets en s'écriant « Monsieur le marquis, la victoire est à nous !»